Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. J'aimerais commencer par remercier la microbrasserie Les Grands Bois, qui nous offre les bières qu'on boit pendant nos enregistrements depuis maintenant 2 ans. Je veux remercier aussi Cuisinic, si jamais vous cherchez un ébéniste pour un projet chez vous, c'est votre homme, allez voir ce qu'ils font sur Facebook et Instagram, c'est malade. Et cette semaine, on reçoit le très intéressant Simon Chénier du podcast Noël chez Isidore pour parler d'un film québécois très noëlé, Station Nord. Bonsoir messieurs, vous allez bien?
Oui.
Oui.
Merveilleux. Une fois de plus, on reçoit un invité pour parler d'un excellent film de Noël. Simon Chénier est avec nous.
Allô.
Salut Simon. Simon qu'on peut entendre avec Les Mystérieux Étonnants régulièrement et Noël chez Isidore, deux excellents podcasts. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Noël chez Isidore, explique-nous donc c'est quoi exactement.
C'est un podcast qui parle de Noël à l'année. C'est pour ceux qui aiment Noël et ceux qui n'aiment pas Noël. On visite plusieurs œuvres de la culture populaire par rapport à Noël, soit des spéciaux télé, des films, des chansons.
Ma blonde trip sur Noël, ma blonde trip sur Noël. Il y a tellement de lumière, puis de lutin, attachez-la à quelqu'un. Ma blonde trip sur Noël.
Attachez-la à quelqu'un. Très 2020.
Pour ses yeux d'enfant, c'est merveille. Moi, je trip sur elle.
Voilà, donc je ne laisserai pas plus longtemps, mais c'est ça, c'est sorti, c'est un single, il est sur iTunes, puis ça coûte 1,29$, je pense, puis c'est ça.
C'est 1,28$ trop cher.
Ouais, check-moi ouais. Bien pas aller l'acheter.
J'ai bien aimé ça, puis c'est un truc qu'on peut écouter à l'année, puis aussi les gens qui écoutent les films dans le cabanon, je pense que... Je pense que vous allez vous retrouver là-dedans. Là.
Oui, ben, on parle pas de gros films, en tout cas... On en des fois, mais c'est surtout des espèces de curiosités. On aime plus parler des films mauvais que des bons films, parce que c'est comme plus facile à analyser, on dirait.
Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Parfait. Bon, on s'attaque à Station Nord. Pas évident comme écoute. On se l'est pas donné facile pour ce dernier épisode de 2020, l'épisode qui sort là, au moment où l'épisode sort le 22 décembre. Donc, notre épisode le plus près de Noël. Cette fois-ci, je vais pas vous lire le résumé du film. Je vais laisser Daniel Morin, le scénariste, vous le résumer.
L'histoire de Station Nord, c'est l'histoire d'un petit acteur de 14 ans, Samuel, qui travaille dans son village depuis que la mort de ses parents et il habite chez son oncle. Il travaille au bureau de poste du village. Samuel est un petit garçon généreux et tout. Et quand toutes les lettres du Père Noël arrivent à Station Nord, et lui a décidé de répondre aux lettres que les enfants envoient de partout dans le monde au Père Noël, avec sa copine Evelyne. Et puis, un jour, en allant livrer les lettres au village voisin pour qu'ils soient envoyés aux enfants avant le soir de Noël, il se perd en forêt lors d'une tempête de neige et puis il est recueilli par un lutin du Père Noël qui l'amène vivre dans le monde magique où lui-même va devenir un lutin responsable des ateliers des lettres du Père Noël.
C'est un film qui nous provient du Canada d'Amérique, plus précisément du Québec. Souvent décrit comme une comédie familiale, mais bien sincèrement, je le qualifierais plus de drame fantastique parce que la comédie est comme jamais au rendez-vous, puis le drame, lui, jamais ben ben loin. Les gars, si vous deviez le classer dans un club vidéo, vous metteriez ça où, mettons?
Ouais, mais tu vois, pour vrai, le drame fantastique, je trouve que c'est exactement on point, en fait. Alors, j'aurais dit drame, mettons, la première fois qui m'est venu en tête, mais drame fantastique, parce que évidemment, t'as la touche de Noël, t'as la magie de Noël, tu sais, à quelque part, mais c'est tout le temps amené d'une façon hyper émotive, puis... Ouais. Triste.
Ça parle beaucoup de mort, ce film-là.
Ouais. Exact, ouais. Ouais, ça a un kill count plus élevé que le premier Décadence, quand même. C'est quelque chose.
Get help. Don't leave me.
Enfant, c'est pas une catégorie officielle. T'sais. Moi, je le mettrais comme film pour enfants de Noël. Ouais. C'est pas un drame fantastique. Là,
c'est une catégorie pour Dominique Adams, mettons.
Ouais, c'est ça. Papa devenu lutin, c'est un film pour enfants.
C'est clairement un film qu'aurait aimé réaliser Dominique Adams. Moi, j'écoutais ça, puis Dominique Adams, il aurait trippé à faire ce film-là. C'est l'impression que j'avais.
Mais j'aurais aimé voir ce qu'il aurait réussi à faire avec un budget de 4,5 millions, moi, pour vrai.
Ouais. Ouais, non, effectivement.
Simon, j'imagine que tu as vu Papa devenu un lutin.
Oui, ben oui, oui, oui. C'est un petit peu trop souvent aussi.
C'est un nouveau classique que tu vas réécouter chaque temps des fêtes?
Ouais, ouais, je pense que oui. Je pense que je peux pas passer à côté. Là. J'ai le goût de me retrouver dans leur chalet.
Ouais.
De voir comment il s'appelle, genre Marie Corbeil faire des grimaces. Marie Corbeil. Ouais, ouais.
Pierrot le lutin.
Hey, c'est drôle que tu parles de Pierrot parce que dans le générique de Station Nord, il y a un onglet qui est écrit cantinière et le premier nom, c'est Pierrot. Oh. J'étais comme clairement que Pierrot, c'est pas une cantinière là, ou comme être en voie de, je sais pas. Là, mais
peut-être, que, bien drôle. Peut-être que Station Nord, qu'en fait, peut-être que Papin de Nulutin, c'est un hommage à Station Nord. Oh, la cantinière.
C'est peut-être dans le même univers.
Oui, c'est aussi. Ça, le Cinematic Universe de Station Nord, de Papin de Nulutin.
Ouais.
C'est un film de 1h51 minutes, un des longs films qu'on a regardé dans le cabanon d'ailleurs. Puis c'est sorti en novembre 2002. Je ne sais pas si vous avez la même date que moi parce qu'il y a vraiment plusieurs informations différentes sur le web, mais si on se fie aux dates de tournage, aux souvenirs que j'en ai parce que je l'ai vu au cinéma puis j'étais au primaire, je pense que c'est novembre 2002. Le film est sorti en Italie aussi. Je ne sais pas, Simon, si tu veux te risquer à dire le titre.
Je ne l'ai pas devant moi, mais c'est pas Miracolo di Natale?
Exactement, exactement.
Miracolo.
Exactement ça. Puis sur le poster, on avait déjà parlé dans le cabanon, mais sur le poster de la version italienne, c'est dit que c'est le blockbuster mondial.
Oh shit! C'est une petite année, hein? C'est une petite année. Il y a eu un film, c'était Station Nord.
C'est l'année des dangereux, non? Puis les dangereux aussi, il a fait le tour du monde, si on peut dire. Là.
Une grosse année pour le Québec, hein? On montre à tout le monde sur la planète notre talent. C'est une réalisation de film.
Toi qui es un grand fan de films québécois, j'en garde.
Moi, je garde. Je te dis, cette année-là, là, j'étais dépressif. Là. Ça ne marche pas.
Station Nord, c'est réalisé par Jean-Claude Laure. Je dois l'avouer en partant, je connais très peu la filmographie de Jean-Claude Laure. Mais de ce que je comprends au fil de mes recherches, j'ai peut-être pas choisi le bon film pour m'initier à son œuvre.
Non, je pense pas.
Ça va vraiment être difficile, en fait, de résumer rapidement sa carrière parce qu'il est actif depuis 1966. Puis il y a plusieurs projets notables à son carnet de route, autant au cinéma qu'à la télé. Je commence par les films Délivrez-nous du mal, Les Colombes, Bingo, Parlez-nous d'amour, Panique et Éclair au chocolat.
Ça, c'est une très bonne streak pour Jean-Claude Laure. Parlez-nous d'amour, c'est vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs films québécois, même si quand tu l'écoutes, tu trouves que le montage est étrange, mais ça fait partie du charme.
Hey, comment ça va, Jean-Claude? Toujours pogné avec ta gang de grébiches pleine de varices?
Donc, c'est pas un lunch que de là, toi, c'était pas complet.
Ouais, c'est pour ça que je pogne, Chris. Entre toi et moi, c'est certainement pas pour ma voix que les femmes viennent me voir, hein? Attends à l'heure, mon petit gars. Tu vas y voir bavé, moi, te le donner deux, trois petits coups de rein, puis ils vont mouiller le siège, les calices. Hey, toi.
Tu en aurais parlé d'eux autres demain.
Ouais. S'ils savaient ce qu'on pense d'eux autres, hein.
Et un petit peu de John Harold.
Hey, wow, ma grosse hostie, là. Ouais.
C'est un film qui met en vedette Jacques Boulanger, qui était un genre d'animateur de talk show d'après-midi. Oui, exact.
Claudine Mercier est avec nous, c'est une imitatrice. Elle est très bonne, et jeune et bonne.
Il joue dans ce film-là, il joue un peu son propre rôle, mais là, le film nous démontre comment que le showbiz est dégueulasse, puis que tout le monde est comme de la merde. Et là, lui, ça a un peu brisé sa carrière, parce qu'il jouait son propre rôle du gars qui aime pas son public puis qu'il envoie chier tout le monde. Ben non, il envoyait pas chier tout le monde, mais il y a des nuances dans le film, mais quand même, ça a fait mal, disons.
Fait que c'est Jacques Boulanger, puis est-ce qu'il s'appelle Jacques Boulanger dans le film?
Non, je me souviens pas son nom, mais tu sais, il anime vraiment le même genre de talk show qu'il animait dans notre réalité.
C'est le scandale en direct du Québec.
Ouais,
c'est comme Ringmaster.
J'ai une face pour faire de la radio.
Ce que je comprends, c'est que lui, Jacques Boulanger, il renie un peu ce film-là. Mais pourtant, je trouve que c'est un film super important. Puis il y a aussi, tu as nommé Panique.
Oui.
Qui est, c'est ça c'est que Jean-Claude Laure, son cinéma est très à l'américaine. Puis il le dit souvent que c'est pour ça que souvent les gens n'aimaient pas ses films. Mais Panique, c'est un film sur une usine qui déverse ses déchets dans l'eau. Et là, il y a des enfants qui pognent des coliques, puis ils deviennent malades, puis tout. Puis là, c'est il y a comme des gens qui prennent en otage une émission de télé pour passer un message. Puis le film est super engagé, puis il est encore d'actualité quand tu le regardes aujourd'hui. Nice. Puis c'est peut-être la force de ses premiers films. Puis là, à un moment donné, ça a un peu viré, là. Je sais pas, sûrement tu vas en parler, mais il a fait le film Vindicator.
Oui, qui est un, j'y arrivais un genre, dans sa passe Canada-Anglais-États-Unis.
Exact, où il y a un genre de cyborg qui détruit la vitrine du bric-à-brac sur la rue Ontario. Là, c'est magnifique. C'est à peu près la seule affaire, je me souviens, par contre. Là, mais ouais.
Mais l'affiche est vraiment, vraiment inspirante. Ça donne le goût de l'écouter. Moi, j'ai vu ça et j'ai fait « OK, il faut que je m'initie vraiment à son cinéma. » Mm-hmm. Je commencerai peut-être pas par celle-là, là. Tu m'as bien vendu, parlez-nous d'amour.
Es-tu baisable aussi?
Elle a 16 ans, bon Dieu.
Arrête de grouiller de main.
Après sa passe Canada-Anglais et États-Unis, il va réaliser la première saison de Lance et Compte, qui, avec Station Nord, c'est la seule autre affaire de lui que j'ai vue. Je suis pas fier de ça. Il va réaliser la première saison de Lance et Compte, La Grenouille et la Baleine. Donc, Station Nord, c'était pas son premier film jeunesse. Ensuite, il retourne à la télé fin 90 pour les séries Jasmine et Diva. Il va réaliser L'Or au début des années 2000. Ça, Simon, je pense que c'est la série que Jean-Marc Parent qui tire du gun sur un hélicoptère, hein?
C'est la seule instance d'un hélicoptère qui explose dans la culture québécoise, soit à la télé ou au cinéma. Puis c'est Jean-Marc Parent qui tire sur un hélicoptère.
Il y a un avion qui s'écrase dans la première saison de Lance et Compte, non? Avec Marine Orsini.
Ouais, mais on voit pas l'explosion.
Ah, t'sais. Ouais, bon point.
Puis c'est comme l'avion qui s'écrase, l'avion dans les Boy Scouts. Ça explose, mais on voit pas. Tout le monde survit. On sait pas pourquoi.
Ça va trahir la journée où on a enregistré, mais à matin, ils ont annoncé que Comédia rachetait les droits des Boys pour sortir ouais. un nouveau film en 2022. Simon, ton avis sur les Boys, vite. En général.
C'est correct.
Okay.
Je laisse les autres l'aimer. Moi, ça me parle moins.
T'en as-tu un préféré, mettons? T'en as-tu un que t'es comme celui-là et ça va?
J'imagine le premier. Ça fait longtemps que je les ai vus, remarque. Là. Je pense que j'aime plus l'imitation de Dom Massy des personnages des Boys que d'écouter les Boys.
Ben oui, ça va bien. Hein? Il y a à peu près juste ma tondeuse et mon chien que j'ai pas hypothéqué. Est-ce que c'est brun longtemps ici? Labine, tu n'es pas mort. Tu es en prolongation.
OK, les Blacks sont gros. Ils ont des grosses épaules. Font peur. Font peur.
Jean-Charles! Je t'aime! Come on, les Boys. Et pour gagner cette partie-là encore, dans mon rive à moi, les Boys, là, ça abandonne jamais.
The mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Pis si t'en as pas le plus qu'on pense du mental... La chambre est remplie de mental. Je pense que le message est clair. Hein? Yes! Oui!
Après la réalisation de la série, la télésérie L'Or, il va réaliser 4 autres saisons de la nouvelle mouture de Lance et Compte. Nouvelle génération, La Reconquête, La Revanche, Le Grand Duel. Je ne sais pas à qui on doit ces titres-là, mais...
Régent.
C'est rough. Ah ouais?
Jean Tremblay, c'est lui qui écrit. Hein?
Ouais.
Ben, c'est à l'image de la série, je pense, les nouvelles moutures. Ouais. Les moutures plus récentes de l'ancien compte, je pense que c'était pas terrible. J'ai vu quelques épisodes. Là, pas,
voyons, Joël, film. Le film de l'ancien compte.
Ouais, le film que tout le monde meurt quasiment. Là.
L'accident d'autobus. Ouais, c'est full reset.
Ouais.
après la nouvelle mouture de l'ancien compte, parce qu'il est toujours actif, là, ses derniers crédits sur IMDb à Jean-Claude Lard remontent à 2018. Il est apparu aussi dans le documentaire L'inquiétante absence. Documentaire qui est passé à Fantasia, l'été passé sur l'absence du cinéma de genre au Québec. Mm-hmm. Bien intéressant. Il est là avec quelques autres réalisateurs qui ont fait des comptes pour tous, d'ailleurs. Simon, plus tôt, tu disais ce cinéma-là était peut-être trop américain pour le public québécois. Ouais. C'est pas le seul réalisateur qui dit ça suite à des productions.
Ouais, je pense que c'est qui celui qui a fait Dans le ventre du dragon? Simoneau.
Ouais.
Qui lui aussi, il a été pas mal catégorisé comme gars qui fait du cinéma à l'américaine.
Le commentaire général qui ressort, c'est que c'est pas un film québécois. Alors pour nous, des gars de Québec, des acteurs de Québec, des techniciens, toute la gang de Québec, écrit par le monde de Québec, enfin, un Québécois, tout le cas, on comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas un film québécois? On peut pas avoir plus québécois que ce film-là dans notre tête. Et là, on nous explique que ce genre-là est un genre un peu dangereux pour notre cinématographie parce que ça appartient plus au cinéma américain. Et on veut pas se faire contaminer. On veut garder une sorte de pureté du cinéma d'ici qui n'utilise pas vraiment les genres.
C'est écrit par Denise Benoît, qui a écrit 5 scénarios, dont 4 réalisés par elle, entre 1976 et 2002. Fait qu'on parle pas là, ici de quelqu'un de très prolifique. Là. 5 scénarios sur une période de proche 30 ans. Puis c'est surtout écrit par Daniel Morin, qui a une courte carrière de scénariste, mais qui a produit les 2 premiers films de Dolan, « J'ai tué ma mère » puis « Les amours imaginaires ». Ainsi que l'excellent Le Scaphandrier. Et après, wow. Plus rien. On comprend pas pourquoi il n'y a plus rien produit après Le Scaphandrier. Il y a un gros cast. Je vais passer sur les gros noms. Puis évidemment, en parlant du film, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Ça met en vedette Benoît Brière dans le rôle du Père Noël. Benoît Brière, je trouve personnellement que c'est un acteur incroyable. Mm-hmm. Mais dans le cadre du podcast, on va dire qu'il est mieux connu pour ses rôles d'Angelo, Fredo et Roméo, Madame Lebrun, puis les annonces de Belle.
T'es sur le gros nerf avec ton cellulaire. Tu crois que t'es super avec ton cellulaire?
Juste dire qu'on ne sait pas que c'est Benoît Brière.
Non.
C'est vrai.
Le générique nous le dit pas.
Je pète ma bulle. Moi, je pensais que c'était le vrai Père Noël. Là. Parce que dans le making of, ils disent que c'est le vrai Père Noël. Moi, je t'assure que c'est le vrai. Là.
C'est vrai. Ils disent qu'ils arrivent sur le plateau puis ils ont rencontré le vrai Père Noël. Ben, je suis désolé.
Moi, quand j'ai rencontré le vrai Père Noël, je me suis senti privilégié. Privilégié de le rencontrer premièrement, de pouvoir parler avec lui. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer le vrai Père Noël.
C'est peut-être pas lui. On sait pas.
Ah.
Peut-être jamais la même personne dans le costume.
Je sais pas. Ceci dit, pour blague à part, je trouvais que c'est un des points positifs du film. En fait, un des seuls points positifs du film que Benoît Brière en panel, je trouve qu'il c'est un bon panel.
Ça met aussi en vedette Xavier Morin-Lefort, qui est principalement connu pour les 455 épisodes de Ramdam dans lesquels il a joué. Il jouait aussi Xavier dans la série Bouscotte et il jouait dans le film Familia. Ça, Joël, le film Familia, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le film dans lequel Passe-Montagne se fait faire une pipe, ça.
C'est ça.
C'est malaisant puis c'est drôle c'est parce que c'est Passe-Montagne.
ouais.
Mais c'est ça, mais on dirait que... Jacques Leroux et Marie Ekel, Passepartout, les deux, ils ont essayé de se défaire un peu de leur rôle de Passepartout. Là. Dans la Comtesse de Bâton Rouge, Passepartout se montre les seins et a dit « Ça fait 25 ans que je jouis à la télé pour les enfants, puis il n'y a pas un sacrement qui veut me faire jouer pour les grands. » C'est un statement. Là. C'est
ouais,
comme,
vraiment. Ouais.
C'est elle pour vrai, puis elle se montre les seins dans un resto. C'est fucké comme film.
Passepartout est mon personnage. Ça fait 25 ans que je jouis à la télé pour les enfants. Puis il n'y a pas un sacrement qui veut me faire jouer pour les grands. Je suis Marie Lheureux, actrice.
Ça met aussi en vedette Roxane Godette Loiseau dans le rôle de la jeune Evelyne. Roxane, qu'on a pu voir dans un paquet de téléromans québécois, surtout toi, Simon. Dans Scoop, ouais. Virginie, Omerta, Caserne 24, Yamaska, que tu as écouté.
Son plus grand rôle.
Ouais, c'est là que j'allais en venir. Je voulais te demander si tu es un personnage important dans Yamaska.
Oui, puis c'est un personnage qui, à un moment donné, se fait attaquer par un autre personnage. Et là, ça devient une cause en cours. Et il y a un crossover avec la série Toute la vérité.
Oui.
Oh shit.
Et là, il y a un épisode de Toute la vérité avec les personnages de Yamaska. C'est génial pour ça.
Très cool.
Wow.
Ça marche-tu? Ça se blende-tu bien? Ou...
Non.
Dans ma tête, c'est comme nice, une super bonne idée. Puis non, non,
ah, non okay.
Ça, ça aurait pu, mais tu sais, ouais. C'est quand même ça. Alors, aussi, juste avant qu'on tape, j'ai essayé de retrouver la cassette, mais je ne l'ai pas retrouvée. Mais j'ai une cassette chez nous de Cardio Thai Box avec Marcel Marois. Et Marcel Marois nous montre comme faire de l'exercice. Et à côté de lui, il y a elle, Roxane quelque chose.
Ouais.
C'est son nom. Qui est comme oui. L'invité de la cassette.
Claudette Loiseau.
1, 2, 3, 4, 5,
en plus de sa cassette de Cardio Thai Box, on a pu la voir dans Secret de banlieue au cinéma, La forteresse suspendue, que moi, j'ose pas réécouter parce que j'ai gardé un bon souvenir de ce film-là. Vraiment. Puis aussi dans l'excellent À vos marques, partez. Fait que d'après moi, c'est pas la dernière fois qu'on parle de Roxane Gaudette Loiseau au film dans le cabanon.
Non, mais c'est le 2, le pire. C'est le 2 qu'il faut écouter, À vos marques, partez.
Ouais, ouais, Jean-François Provençal, il y a une couple de semaines, nous a suggéré ça aussi. Fait que je pense que ça va venir, là.
Mais Xavier, qui joue Samuel, là, qui était dans Ramdam, lui, il a rien fait d'autre, je pense, après Station Nord, ça se peut-tu?
Des fois, je l'ai vu, il était devenu agent d'immeuble.
Je pense que c'est vendeur d'assurance.
Ah. Ah, OK, ouais, c'est ça.
Il est sur LinkedIn. Si jamais vous cherchez des assurances et que ça vous tente de vous les faire vendre par un gars de Ramdam.
Je crève de faim, j'ai rien avalé de la journée. Hein? Oh, t'es goûté en merde. Bon sang, quel crétin!
Pour ceux qui connaissent le site Cameo, où tu peux demander à des vedettes de souhaiter bonne fête à des chums, au Québec, c'est assez récent, on est rendu avec Salut, puis il est là-dessus, comme plein d'acteurs de Ramdam. Fait que, évidemment, vous me connaissez.
C'est sûr qu'on va en avoir.
Ah puis on va voir ce que ça va donner.
Yes! Il est habitué de parler à une caméra, il brisait tout le temps le quatrième mur dans Ramdam. Ben là, qu'est-ce que je vais faire?
OK, on change de sujet.
Il y a d'autres visages connus, certains qui sont là comme deuxième, troisième rôle, mais on va en parler dans la prochaine heure. Si ça vous fait rien, je veux juste nommer au passage quelques membres du crew. Il y a notamment le producteur Pierre Gendron. Pierre a produit plusieurs films mettant en vedette Patrick Huard, dont Cadavre, dans lequel on voit Patrick Huard faire la toupie sur sa queue. Ah oui, c'est vrai. Si on regarde le générique du film, dans Les gardiens de sécurité, il y a Guy Cloutier, ce qui est quand même stressant compte tenu du fait que Nathalie Simard est dans le film. Selon IMDb, le film qui a coûté plus de 4 millions a remporté 171 000 $ à travers le monde, mais j'ai comme un doute que ce soit les vrais chiffres. Je trouve que c'est peu, 171 000 pour ce genre de film-là.
Ben pour un blockbuster mondial.
Exact, ben oui.
Oui, c'est ça.
Je trouve que c'est exactement. Beaucoup le budget. Le budget, je trouve que c'est beaucoup pour un film québécois, me semble.
C'est fréquent. Ouais. Hein? Je pense que... Non, ça me paraît pas...
Mais en 2002, ça. En tout cas, puis je trouve que ça paraît pas tant que ça à l'écran.
Le budget, il est passé dans les décors puis dans les gros sourcils brillants.
Ouais, mais les deux sont lettres, je trouve. En tout cas,
les deux sont discutables.
Ouais, c'est ça.
Je regardais le film, je n'étais pas sûr. Les décors, est-ce que Québec Sim leur a prêté ou ils les ont achetés après? Je n'étais pas certain.
Très bon.
Les sourcils des lutins, ça coûtait cher en cure-pipe puis en brillant.
Ouais.
Je pense que le film souffre aussi du fait qu'il est tourné en numérique.
Oui.
Je pense que si c'est en pellicule, ça aurait mieux sorti. Mais là, c'est comme le début du numérique, je pense.
C'est l'info qu'on voit beaucoup. Hein. Ça serait dans les premiers films. C'est un peu flou, mais ça serait dans les premiers films tournés en numérique HD au Québec. Moi, ce qui m'a gossé dans Direction Photo, c'est pas le fait que ce soit tourné en numérique, c'est le fait que ce soit tourné très large, toujours en focale très courte. Fait que l'arrière-plan est comme à peu près jamais flou, ce qui aurait comme vraiment aidé le décor. Puis les mouvements sont bien bizarres. Par bout, j'écoutais le film, puis j'étais comme ça me fait penser à The Revenant, mais genre pas le même film, là, mais
c'est...
Ouais, il y a une couple de scènes qui sont comme... on dit que quasiment que c'est un documentaire. Caméra épaule qui suit les lutins, qui suit le Père Noël dans la base des lutins. Là. Il y a de quoi dans l'image qui fait... On dit que c'est juste un... On dit que c'est le making-of. On dit que c'est un documentaire. Ça marchait pas, là, t'sais.
Mais on voit dans le making-of la rig de caméra, puis ça ressemble beaucoup à la rig de Tommy Wiseau pour The Room quand il a fait « Ouais, je vais tourner en pellicule et en numérique.
» Un gage de succès.
C'est vrai qu'il y a-tu une version de Station Nord en 35 mm qui existe?
Ça serait épique.
You want to shoot 35 or HD?
Well, we'll shoot both on this film.
Ça, vous l'avez pas vu, les gars, mais en partant, avant même que le film commence, le menu du DVD est dégueulasse. Moi, j'ai une copie physique ici. J'ai écouté ça sur le DVD. Puis le menu est atroce. Ça a vraiment l'air d'un template d'un logiciel de DVD que t'achètes au bureau en gros. Là, c'est vraiment lettre. Là. Ça part de même. Puis après ça, c'est suivi d'une signature qui dit que ça se passe en 1950 dans un village qui s'appelle Station Nord. On voit une shot de jib d'une église éclairée qui ressemble à celle de Saint-Élie de Caxton l'hiver là, avec des LED dedans. Mmh. Puis on entend des lettres de jeunes de partout dans le monde. Dans toutes sortes de langues. Puis on voit quelqu'un répondre à des lettres du Père Noël. Le facteur qui répond s'endort, se réveille. En fait, quand il s'endort, je me suis dit, ça y est, il est mort. Probablement parce que j'avais déjà vu le film. Mais il se réveille et là, il meurt.
Ouais.
Ouais.
Il ne peut pas mourir le premier coup.
Grosse musique dramatique. Puis tu sais, quand il tombe, c'est moi qui ai remarqué, quand il y a un gros plan, il y a genre un œil injecté de sang.
Ouais.
Il y a comme un œil, il y a comme une tache de sang. Là, je suis comme, hey, c'est quoi? C'est de quoi j'ai entendu parler là? Ouais.
Ça va pas bien.
C'est tout après qu'il meurt, puis il meurt, puis il voit la grosse lumière jaune-orange au bout du tunnel là, qui vient comme blaster sa face.
Ouais.
Ouais. Très beau, ça. Je sais pas si c'est la lumière qui vient de Los Angeles, comme disait le directeur photo dans le making-of, qui ont des grosses ouais. lumières qui viennent de Los Angeles.
Ouais. On a mis une grosse lumière qui vient de Los Angeles. Là. Une histoire de fou encore. Là.
Je me souviens pas du nom de l'acteur, mais c'est lui qui jouait Eugenio dans L'Héritage. Je voulais juste le plugger.
Vous les mêmes qui ont tout Simonac!
Plus les gens ont de l'argent... Moins qu'il en donne.
C'est le jour tout est turbo jaune. C'est tellement bizarre comme colo.
C'est pas beau parce que c'est sur la neige blanche qui est jaune, là, juste de la pisse qu'il y a dans la neige. C'est, ça marche pas, mais moi ça me faisait penser dans Breaking Bad, toutes les scènes qui se passaient au Mexique, il y avait un gros filtre jaune. Mais c'était crissement plus réussi que ça.
Ben, c'est plus comme c'est juste... orangé, puis il y avait du contraste dans Breaking Bad. Là, c'est comme juste blasté jaune, on dirait.
Ouais.
Clairement comme... inspiré de Station Nord. Là,
oui, c'est ça. Oui, après ça, ouais.
C'est peut-être de même dans les années 50. On n'était pas là.
Et parlant de jaune et de trucs de mauvais goût, il y a Gaston Lepage qui fait une joke sur les Chinois.
Ouais.
J'avais pourtant demandé au centre de triage qu'ils arrêtent de nous les envoyer. Il y en a même cette année qui arrivent de Chine.
Au Père Noël, de Chine.
Ben oui, mon Gaston, c'est ça qu'ils font avec notre argent, les petits Chinois.
Et ça, là, est-ce que c'est pas clair comme joke?
Non.
Là? Je sais pas ouais. si c'est un statement, là. Je sais pas à quel point...
C'est un peu la réalité, je pense, des années 50. Là. Les Chinois, ça, c'était vraiment comme l'étranger. Là. C'était loin la Chine. Fait que c'est peut-être ça. Je sais pas. Là. Je pense pas que c'est une joke, un statement de 2002, tant que ça. Là.
On n'en est pas à notre dernière référence douteuse à
non.
la diversité dans Station.
Ah, non.
Ouf, non, non.
Plus tard,
c'est 100% du temps maladroit. Pas mal intentionné, je pense pas, mais maladroit.
Je vais moi-même ouais. faire un Joël. J'ai skippé la scène où Samuel rencontre pour la croise pour la première fois dans le film son love interest Evelyn, qui est jouée par Roxane. Puis les deux vont aller répondre à des lettres. Il faut répondre aux lettres écrites au Père Noël. C'est les facteurs qui font ça. Je sais pas à quel point là, dans les années 2000, c'est toujours ça, là, mais j'ai l'impression que c'est plus comme une espèce de lettre template avec un nom dedans. Là.
Quoi? Hein? Tu penses? C'est pas,
je sais pas.
C'est pas les petits lutins qui vont H-O-H-O-H-O.
Écris au Père Noël!
Bon,
H-O-H-O-H-O! Écris au Père Noël avec ton adresse. Regarde ta boîte aux lettres.
Il répond avec tendresse.
H-O-H-O-H-O.
Evelyne et Samuel vont répondre aux lettres toute la nuit. À un moment donné, Evelyne est fatiguée, fait que Samuel, qui s'approche vraiment beaucoup d'elle, va lui dire comme « Va t'étendre, là, je vais continuer, puis quand tu vas te réveiller, tout va être fini. » Fait que là, il est comme « Où je m'étends? » Puis il fait « Ben là, là, dans les poches de lettres. » Ça a l'air très confus, très romantique, tout ça.
Ouais.
On passe à une chorale haute en couleurs qui chante « Happy Day » avec Nathalie Simard et Paul Buisson.
Et l'accueil Bono.
Ils ont un costume différent. Chaque Paul Buisson, il y a comme un saut de prisonnier avec une espèce de chemise hawaïenne par-dessus. C'est comme pas clair, parce que je pense qu'on apprend plus tard que c'est des prisonniers.
Ouais, ok, je suis pas fou, j'ai entendu ça moi aussi.
Ouais.
Luther, ils sont des anciens prisonniers.
Qu'est-ce qu'ils font ici?
Ils croyaient tellement au Père Noël, alors il a décidé de les faire venir ici. C'est juste qu'ils sont obligés de tirer son traîneau. Dans les rues.
Les lutins débarquent au bureau de poste pour remplir les lettres parce que Samuel et Evelyne se sont endormis. Puis, ils font ça comme en accéléré, là, le procédé préféré de Jean Gab. Oui, Simon?
Mais je ne veux pas revenir sur la chorale.
Vas-y.
Mais la chorale est là pour empêcher le monde d'aller au bureau de poste pour que les lutins passent.
Ça
m'a pris du temps avant de catcher, mais c'est ça qui...
Ça, c'est le fruit de 4 écoutes de Station Nord.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Mais en quoi ça va empêcher le monde?
Non, mais c'est parce que ça fait du sens, c'est vrai. C'est que le monde arrête.
C'est ça, t'as le gars sous qui arrive puis qui veut aller porter une lettre. Puis là, ils sont « Ah, on va la donner, nous autres! » Pendant ce temps-là, t'as les lutins qui passent.
OK.
Puis quand ils finissent les lutins de leur job... La chorale a disparu.
Exact.
Ça fait du sens.
Oui. Et puis, t'as dit, Simon, le gars sous. Là.
Ouais, ouais.
Asti, que ça me gosse pour elle. Je trouve ça lourd, là, quelqu'un qui imite un gars sous. Là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de ça. Je pense que François Léveillé, qui est un humoriste que je respecte, avait ce personnage-là du gars sous.
Ouais.
Puis, Jean-Michel Anctil avait ce personnage-là du gars sous.
Il y avait Gilles Thibault aussi.
Il existe-tu des images de ça? C'est un nom que je connais, mais je pense l'avoir jamais vu.
Oui, oui, je vous en enverrai, là, mais c'était un gars qui imitait Olivier Guimond qui fait le gossou. C'était comme c'était plusieurs niveaux de très mauvais.
Pourquoi là tu peux pas l'emporter de pour l'amener de pour ceci de pour l'écrire là, du pingouin?
Louis-Georges Girard, le père d'Evelyne, débarque avec Gaston Lepage parce qu'il est comme ça n'a pas de bon sens que ma fille soit seule avec Samuel à répondre à des lettres toute la nuit. Qu'est-ce que le village va dire? Ça sonne très 1950 tout ça.
Ouais.
Puis ils rentrent, puis toutes les lettres sont écrites, puis c'est comme surprenant, puis c'est grâce aux lutins qui vont se volatiliser dans une des dizaines, en fait, d'effets de particules qui se volatilisent. Là. C'est de toute beauté.
Puis là, Gaston Lepage arrive, puis il dit « Vous avez relevé le défi. »
Mon ami, il a réussi son défi!
Samuel veut acheter des bijoux que Evelyne trouve beaux. On a installé ça plus tôt, là, si on fait un Joël, on a installé ça plus tôt dans le film que Evelyne a vu des bijoux dans une vitrine. Il veut les acheter, mais ils sont plus là parce que Evelyne est rentrée les acheter, puis on va le savoir un peu plus tard. L'oncle, Gaston Lepage, leur dit que la voie ferrée est bloquée, fait que les jeunes ne pourront pas avoir les lettres de Noël. Puis là, il y a une larme crissement weird! Cool, ça joue de Xavier.
Ouais, moi, je... Ouais, vas-y.
J'allais vous demander, vraie larme ou fausse larme, selon vous?
En fait, c'est tellement vite. Moi, j'écris larme avec des points d'interrogation. Tu es comme, hein? Tu sais, vous diriez que c'est comme un changement de plan, puis là, il y a la larme qui coule doucement.
Moi, je dirais que c'est une vraie larme physiquement, mais c'est pas. Tu sais, ils ont rajouté avec une. Ils ont mis des gouttes dans les yeux, peut-être. Là, je sais pas.
Tu sais, mais elle est tellement crisp, là, elle est tellement définie, la larme. Elle a vraiment l'air comme collée là. Là.
Ben, tu sais, si c'est. Ah, OK, mais est-ce qu'elle est animée? Est-ce qu'elle descend?
Ouais. Oui, elle descend sur sa joue, mais il y a de quoi d'uncanny là-dedans. Mais...
Ouais.
Mais
je sais pas. Des effets spéciaux réussis, parce qu'on se demande si c'est vrai.
Mais peut-être, là, c'est vrai.
Mais moi, je trouvais juste que c'était trop, là, c'est trop dramatique. Je dis, c'est pas grave, là, si les enfants n'ont pas de réponse à leur lettre tout de suite. Là. Lui, ouais. Il prend ça trop personnel. Je sais pas,
pour un ado, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Il est comme trop intense. Il pleure. Ouais, il pourrait être un peu découragé. Puis au pire, regarder la caméra comme dans Random. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce que je fais?
Samuel, en apprenant que les lettres vont pas pouvoir se rendre par train, il faut prendre la motoneige pour aller les livrer. Puis Evelyn lui donne un des anneaux, en fait, que Samuel voulait acheter plus tôt. Ils vont s'embrasser sous le regard du bully du film qui va revenir un petit peu plus tard. Puis j'ai remarqué à ce moment-là que la DOP. De nuit dans le village est vraiment plus belle que dans le jour. Parce qu'on enlève ce filtre jaune-là, très intense. On est plus ouvert. Fait qu'il y a du beau bokeh de lumière de Noël en arrière. Très technique ce que je dis là. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, je vais glisser un extrait puis vous allez voir que le visuel du film pogne une coche la nuit dans le village de Station d'Or.
C'est juste plate que si ça revient souvent le jour aussi. Tu sais, genre, ça
ouais, c'est ça qui arrive. Ça se passe très souvent le jour.
Ouais.
Fait que Samuel, évidemment, tombe en panne et il traîne les lettres à la main dans la tempête avec son petit traîneau. Evelyn est inquiète en face de l'église. Elle attend Samuel qui revient pas. Le bolé lui dit
« À ta place, je l'oublierai ton beau Samuel qui est sûrement mort de froid skidou. »
C'est pas une ouais. Semi-marde, ce calice-là.
Ah ouais. Puis là, j'ai comme noté, on voit Nathalie Simard, puis je dis qu'elle est fucking freak.
Elle fait une face creepy, elle dit « On s'en occupe de Samuel avec un clin d'œil. »
En télépathie.
Ouais. Exact, c'est ça, ouais. Il télépathe là-dedans. Okay.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai écrit que le skidoo en CGI, c'est lettre.
Ouais, dans hein, vibe, moi là. Aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une shot de skidoo un peu whack.
Ouais,
puis
ouais.
C'est comme, Chris, un skidoo au Québec, me semble, doit pas être dur à arranger. Il doit pas être dur de trouver quelqu'un ben, pour faire du skidoo.
C'est un vieux skidoo, par exemple, mettons, à la défense de.
Comme ouais,
un modèle de skidoo. Mais la vraie question, c'est un skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour?
Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour?
On est à 20 minutes du film et il y a déjà deux personnes de mortes dans un film familial de Noël, quand même. C'est rock'n'roll en Saint-Simonac. Ouais.
Mais ça arrive souvent dans les films de Noël que les gens, il y a des personnages qui meurent en se rendant quelque part ouais. Parce qu'ils sont pognés dans le fret et c'est là qu'ils passent dans le monde magique.
Ouais, y a, c'est vrai.
Il y a le film Santa Claus de Movie, qui est un film sorti en 85. C'est l'histoire du Père Noël. Puis c'est ça qui arrive avec le Père Noël. C'est comme un genre de menuisier qui va porter des cadeaux à des enfants dans un village pas loin. Mais là, en se rendant, il y a une tempête de neige. Puis lui, puis la mère Noël meurt gelée. Puis là, il se retrouve au royaume du Père Noël. Puis là, il devient Père Noël. Je pense que ça arrive. Quelques fois dans d'autres films, mais bon.
Il y a le contraire qui arrive. Il y a de quoi qui arrive dans Sur les traces du Père Noël. Le Père Noël meurt puis est remplacé par quelqu'un d'autre.
Oui, oui. Il y a beaucoup de morts dans Noël.
Oui, fait que dans le fond, oui. Dans...
Faut mourir pour croire au Père Noël.
Oui, ouais, c'est ça.
Une fois adulte, ouais. En tout cas.
Dans Krampus aussi, là, il y a une couple de morts.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai, le kill count de Krampus il est quand même élevé. Fait qu'on arrive au pôle Nord sous un dôme. Samuel se réveille sur une mezzanine couchée à terre sur de la paille avant qu'on comprenne que c'est le protégé de Howie. Père Noël arrive là, dans une scène de CGI de qualité discutable. On coupe à Evelyn avec les petits violons. Elle est en sueur dans un lit d'hôpital avec une croix au-dessus de la tête.
C'est dark, là, pour un film pour enfants.
C'est dark, là!
Ouais,
t'as raison, d'être en sueur. Mais c'est le pacing est vraiment bizarre parce qu'à trois reprises, je pense qu'on passe du royaume du Père Noël avec Samuel qui comprend pas qu'il est mort à elle qui est en sueur dans un lit d'hôpital avec les violons faits au synthétiseur. Dégueulasse.
Elle a comme la tuberculose? C'est quoi qu'elle a? Pourquoi elle est en sueur demain? Elle est juste triste.
La maladie de l'amour.
Ouais, c'est ouais. Ça.
un cœur brisé, Joël. Tu connais pas ça parce que c'est toi qui brises des cœurs.
Ouais, c'est ça.
Les années 50, tu pouvais pas te distraire avec Netflix ou quoi que ce soit. Tu pouvais juste vivre le moment puis oui. Rusher pendant vraiment longtemps.
Ouais, puis tuer.
Ouais.
Ça, moi, quand je pleure, je transpire pas comme ça. Je sais pas pour vous autres. Là, mais...
Ben moi, ça m'arrive de suer quand je pleure. Ça dépend, je pleure à quel endroit. Tu sais, mettons, si je pleure
dans le au gym.
Au gym, tu sais, ça, je sue en même temps que je pleure. Dans les switches d'images de ville du Père Noël, puis on va voir la petite fille d'exorciste en train de crever, ouais. On catch que les reines du Père Noël
oui.
Se trouvent à être la chorale.
Exact.
Ouais. Ouais. Je pense que c'est là qu'on apprend que c'est comme des prisonniers.
Ouais.
C'est leur destin, ouais. C'est d'être des reines. Je comprends pas pourquoi.
C'est tellement pas clair.
Puis quand ils ont tourné cette scène-là, il y a comme une outtake dans le making-of où on voit Nathalie Simard dire, je sais pas si elle a dit « vie de chien, on devrait se syndiquer » ou « j'ai envie de chier, on devrait se syndiquer ». Je l'ai repassé deux, trois fois, puis je sais comme c'est pas clair. Non, c'est ce qu'elle dit.
Oh, quelle vie de chien! Il va falloir passer à se syndiquer, hein?
Je vais y aller avec « j'ai envie de chier ».
Ouais, moi aussi, je vais mettre mon père « j'ai envie de chier » aussi.
Yeah. On revient à Evelyn avec des violons encore très tristes. Ah oui, débarque et fait un rituel au-dessus d'elle, puis lui dit que Samuel va bien, ce qui est vraiment sneaky parce que deux minutes après, il va avouer à Samuel qu'il est mort.
Ouais.
Il va dire à Samuel « parce que t'es mort ». Puis j'étais comme « voyons, il vient de dire à l'autre qu'il allait bien, puis là, il est mort ».
Ça gosse parce que, ah oui, il donne juste des bouts d'informations à Samuel.
Oui.
Samuel, il comprend pas, puis à un moment donné, il faut que le Père Noël, il dise « ok, explique-lui ». Parce qu'il comprend pas, mais c'est sûr qu'il comprend pas si tu fais juste dire « ah, t'es mort ». Comment ça, je suis mort? Puis là, tu sais, c'est comme long toute cette boucle-là où il faut qu'il comprenne qu'il est mort.
Il faut que je téléphone chez nous tout de suite! Tout de suite!
On arrive à un de mes bouts un des bouts qui m'a fait beaucoup rire, en fait, dans ce film-là. C'est Evelyn qui se fait écœurer en classe par les petits bullies. Parce que Evelyn va raconter son histoire avec Howie, puis là, les petits bullies vont se peinturer le visage en blackface et imiter le Howie en classe. Puis là, j'étais comme, il y a les petits bullies en blackface.
J'avais tellement pas compris ça. Pourquoi ils sont en blackface? Parce qu'ils imitent le
C'est ça. Puis l'imitation, surtout, c'est ça qui est insultant. Je vais pas faire l'imitation parce que j'ai pas envie que quelqu'un reprenne ça puis mette ça ses médias sociaux. Mais je vais juste comme glisser un extrait puis je vais les laisser se commettre eux autres. Même.
Je t'aime. Je vais te donner un petit bec tout mouillé, tout noir.
Hey, lâche ça! Valérien! Qu'est-ce que tu lui as volé, là? Redonne-lui sa photo.
Jean-Claude Laure a déjà fait une scène similaire de blackface dans L'Ancien Conte, où le personnage principal, Pierre Lambert, sort avec une noire. Et là, pour que l'équipe veuille lui montrer comme qu'il accepte la relation, parce que ça a l'air que... Il fallait. Ils se sont tous, ils se font tout un blackface, puis ils se retournent, puis ils sont comme, en tout cas, on l'aime, ta blonde, puis c'est comme, tabarnak.
Le chat, on est tanné des histoires de nègres. On est écœuré de passer pour des racistes. Ça fait que sors avec ton haïtienne, puis laisse-toi pas écœurer. C'est ça, gars?
Ouais! T'en parles, puis de mémoire, RBO aussi l'avait fait. Elle avait fait le personnage, j'ai oublié le nom du personnage, mais la noire de L'Ancien Conte.
Lucie Baptiste.
Le personnage de Lucie, quand est venu le temps de parodier dans RBO, c'était Chantal Franck qui le faisait, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Tu es beau, jeune, fringant, alors que lui est gros, moche, barbu. Tu fais pas le poids, Pierre.
Sacrement!
Il y a un rituel où Samuel donne son dernier souffle et là... surprise, le maître des derniers souffles, c'est le Père Noël.
Ils sont tous crampés parce que Samuel, j'allais dire le gars de Ramdam, là, il donne son dernier souffle, ça veut dire qu'il meurt. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Il ne se souviendra plus de rien. Puis c'est comme de passer à une autre étape, mais... Ah, ce film-là, toute l'affaire du dernier souffle, là, c'est tout un concept weird. Ouais. Là.
Mais ils sont bien détachés par rapport à la mort, parce que plus tard dans le film, quand il y a trois personnages à l'article de la mort, ils sont comme couchés sur des bars d'événements corporatifs, là, des espèces de bars en plexiglas avec des LED dedans, puis ils sont couchés là-dessus. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont
j'avais noté
ça,
genre, que
dans un backstore au stade olympique.
Ouais. Moi, j'avais noté que c'était des tables de balles de finissant secondaire.
Ouais. 50 ans plus tard, à Station Nord, on voit Evelyne qui est devenue une femme de 50 ans plus vieille.
Elle est devenue Renée Claude, la chanteuse.
C'est une chanteuse?
Ouais, ouais. Elle est morte, je pense, cette année en plus.
Ah là, c'est triste que tu dises qu'elle est morte cette année, parce que moi, j'allais dire que c'est un des moments d'acting qui m'a fait le plus rire dans ce film-là.
Malaise.
Tu sais, je suis vieille, fatiguée et malade maintenant.
Dans la vraie vie, elle est peut-être devenue lutin.
Ah oui, c'est vrai, son dernier souffle.
On rappelle que le Père Noël existe, il est dans le film.
C'est vrai.
OK, parfait. Et il y a une autre
comédienne. Ça va clairement être dans le montage, ce bout-là.
Ah, c'est sûr que oui. Ouais.
C'est tête, là.
On dirait qu'à toutes les fois tu dis « ça va clairement être dans le montage », c'est comme une note pour moi pour que je le coupe.
Ouais. Je t'aide, dans le fond.
Merci.
Je fais ta job, Sti.
Fais tout, calisse!
Il y a une autre comédienne de Ramdam qui débarque, c'est Cathy, le personnage de Cathy. Elle offre des biscuits au Père Noël sur un plateau d'argent. Puis là, ah oui, va tenir des propos un peu macho, voire misogyne à l'égard de Cathy. Genre, retourne en cuisine, toi. Puis on comprend que Cathy. Ouais, on comprend que Cathy, c'est comme un peu. Là, Samuel va la défendre parce que Samuel, c'est un personnage vertueux dans ce film-là. Mais on comprend que Cathy, c'est un peu le mouton noir du village magique là, du Père Noël.
Alors, retourne dans ta cuisine, tu veux? C'est fini, les femmes dans les cuisines. Je m'amuse plus. Laissez-moi jouer avec vous.
Elle a raison, oui. Fini les torchons, les chaudrons, puis les poêlons. Puis on est de fous, puis on s'amuse, hein?
Hey, yo! Chabroute! Tu commences à perdre la tête ou quoi? Si on allait jouer avec nous, on risque d'attirer la colère de Bianca. Alors toi, tu t'en vas tout de suite. Quelque chose, Samuel?
C'est compliqué, les filles.
J'ai spoté aussi, dans les lutins, t'as... comment il s'appelle? Fayol Jean Junior.
Oui.
Qui jouait le goaler dans l'ancien compte Nouvelle Génération.
Ah, ouais.
Il y a aussi celle qui joue... attends, j'ai ça quelque part comme note, là, mais la lutin philosophe oui. Qui est...
J'ai oublié son nom. Elle jouait dans Virginie aussi, me semble. Ça se peut-tu?
Ouais, elle a joué dans Virginie. Elle a joué dans L'Ancien Comte aussi. C'était une des enfants de Pierre Lambert. Et oui. Dans À vos marques partez aussi. Je pense que c'était une des bad girls.
Oh! Lara S, Lara L et Lara T.
Suite après, c'est la chorale qui chante.
Ah, ça,
la chorale qui chante au Zimbabwe.
C'est le bout pas raciste du tout de chanter à Zimbabwe à une famille d'Africains qui sont morts.
Sont-ils morts?
Ils sont pas morts. Ben, non, mais s'ils sont là, c'est bizarre.
Ils sont pas morts. Vas-y de ton explication, Simon. Ils sont pas morts. Hein.
Non, ils ont fait venir pour qu'eux, ils croient au Père Noël, pour donner de l'énergie au Père Noël qui commence à être déprimé. C'est ce que je comprends.
Mais puis, c'est
pour leur donner de l'énergie, ils chantent cette toune-là. Ça, c'est un drôle de choix.
Puis ils sont comme, ils ont l'air crissement down, mais tu comprends?
C'est pas
ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont juste l'air écœurés de la chorale. Ils sont comme, là, on se fait ailleurs, ils sont juste là, tabarnak.
Et puis, ils répètent là, au Zimbabwe, souvent, il y a Paul Buisson qui fait des cris de singe à travers ça. C'est cringe en tabarnak.
C'est pas la toune, là.
Le Roi Lion, là.
Roi Lion.
Lion Sleeps Tonight, là. Ouais, mais ça me rappelle le film. En tout cas, c'est Santa Claus. C'est-tu ça, le film de 1959? Un mauvais film de Noël que oui. Tout le monde à travers le monde, puis en même temps, il y a vraiment des Africains, mais ils sont vraiment habillés comme des cannibales. Avec un os dans les cheveux, tout ça, là, en tout cas, avec des lances. Là. Mais ça, c'est en 59. Ce film-là, il est en 2002.
Je vais te donner un petit bec tout mouillé, tout noir.
Fait que, ah oui, explique à Samuel pourquoi ils ont une dent contre Cathy. C'est parce que Cathy, à un moment donné, est allée dans le monde des humains avec le nouveau costume du Père Noël. Puis ça aurait pu comme détruire l'espèce de secret autour du village magique, je sais pas trop. Fait qu'elle a été condamnée à 1000 Noëls de cuisine pour ça. Parce qu'eux autres, ils vivent comme très longtemps, ces gens-là.
Immortels.
Exactement, ils sont immortels.
Oui. Ça, puis le temps se passe pas pareil là-bas. Tu veux dire, il y a eu 50 ans entre l'arrivée de Samuel puis là, où est-ce qu'on est rendu. Mais pour eux, c'est peut-être comme 2 semaines, je sais pas trop.
Ah, c'est pour ça que Samuel, il est un peu encore épais.
C'est comme dans Interstellaire, mais en vraiment moins poussé. Le personnage de Nathalie Simard va se pogner avec Paul Buisson, puis là, elle va faire comme « Hey, il y a un passager de plus dans le traîneau, moi j'ai des vieux reins. » Paul Buisson va la traiter d'espèce de momoune, elle va répondre « espèce de gros lard », et Paul Buisson va répondre « espèce de petit pudding ».
Il aurait pu la traiter de poutine, tu sais, il faisait des pubs de Valentine. Fait qu'il aurait... C'est peut-être avant les pubs de Valentine, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là.
Poutine, Valentine, c'est la meilleure poutine.
Il paye de cool, chill.
Chill?
Oh, Chili, non. Mais chez Valentine, on a des hamburgers, des hot dogs, des clubs sandwichs, des poutines, des kétés, un combo wapillon.
Offrez-vous deux bons hot dogs, une succulente poutine et un Pepsi 21 pour seulement 5,99. Wow!
Valentine, la meilleure poutine.
Samuel puis le Père Noël partent, ils partent chez Evelyne et Satya les voit. Samuel voit sa photo, il comprend pas trop parce que lui, sa mémoire a été effacée. À ce moment-là, Evelyne fait une crise de cœur, genre un peu comme le facteur au début du film, là, c'est pas trop clair s'il s'endort, s'il meurt ou...
c'est supposé être dramatique, mais moi j'ai ri à cause de la musique cheap qui accompagnait la scène. Une espèce de cue musicale, ouais. Genre, quand on sa chaise, ça a comme gâché la scène.
Mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être les cris de la grand-mère dans le sommet de Dante.
Oh, wow! celle qui meurt là, dans l'ave, là.
Ouais. Vas-y donc, Joël! Au retour au village du Père Noël, Samuel reçoit une lettre de Satya, qui est la petite fille de Evelyne devenue plus vieille. Puis dans la lettre, il y a une photo de Samuel. Puis Samuel se reconnaît, puis il comprend pas ce que ça veut dire. Puis il y en a beaucoup des scènes là, de même là, où il comprend pas ce que ça veut dire, puis pourquoi il voit des photos de lui un peu partout. Puis c'est long avant qu'Oui il explique. Puis là, Oui débarque, Samuel l'envoie peut-être un fleur, puis Oui il part en faisant ce que je pense être un « fuck you ». De son doigt. De
oui, converge. Oui, exact.
Je l'ai mis sur pause. Puis
vous l'avez tout vu, hein?
Ouais.
Là, on s'enligne vers le dernier acte du film. Samuel va aller voir la grand-mère Evelyne pour comprendre ce qui se passe. Ah oui, qui essaie de le dissuader pendant une seconde, puis finalement dit « Ah non, non, finalement, c'est une bonne idée. » Puis ils suivent, ils vont dire à Cathy leur plan. Cathy va dire « C'est complètement fou » avant de dire « Ah, oh, c'est correct, je vais vous aider. » Les gens changent vite d'idée dans tout ça. Fait que ils vont retourner dans le monde des humains. Et Samuel, oui.
Je pense que je vais faire un Joël de moi-même. Mais
let's go, mon gars.
Faut pas passer sous silence la scène où le Père Noël essaie de composer la chanson qui va rassembler tout le monde. C'est mon moment préféré parce que ça sort tellement de nulle part. Ouais. Pourquoi un band punk new wave avec le Père Noël? Ouais.
C'est très what the fuck, là. Plus le film avance, plus il y a des failles, vraiment.
Là, ouais, ça commence à être... Ouais. Puis d'ailleurs, je veux juste, pour qu'on ramène tout le monde à la même place, là, je vais dire que, Samuel sont dans le monde des humains. Ils veulent aller sauver Evelyn d'une mort certaine. À ce moment-là, Père Noël et Bianca, qui sont dans le monde magique toujours, débarquent dans la fabrique et se rendent compte qu'il n'y a plus personne pour l'aider. Fait que là, c'est comme la pagaille, le mess est pogné. Ils vont voir Cathy qui était là pour sober les deux autres, mettons. Puis là, Cathy dévoile tout de suite. C'est le secret qu'elle avait dit qu'elle allait garder. Elle fait comme ils sont partis dans le monde des humains. Puis là, Bianca est fâchée de ça. Puis Cathy répond: tu m'as jamais aimé. T'aurais dû me laisser mourir. Puis on ajoute une couche de plus à ce drame fantastique.
Il n'y avait pas assez de drame, en fait, encore, je pense.
Pas assez de drame encore.
Il en manquait juste un peu.
Pendant ce temps-là, Satya, oh oui, Samuel débarque à l'hôpital. Père Noël et Bianca les cherchent. Eux sont rendus dans le monde des humains aussi. Et là, ils se cherchent là, dans le monde des humains. Oui, Simon?
Je ne sais pas si vous avez remarqué le caméo de l'infirmière. C'est Fanny Lauzier qui était la grenouille dans La grenouille et la baleine.
Non!
Elle me disait de quoi aussi?
Ben ouais. Mais quand tu disais plus tôt que Jean-Claude Lard avait tendance à ramener des mêmes comédiens, des mêmes artisans dans ses productions, ça c'est un bon exemple quand même. Là.
C'est un peu comme Adam Sandler, dans le fond.
Oui.
Hey.
Fanny Lauzier, c'est Rob Schneider.
Exactement. Puis à ce moment-là, on est à peu près à 1h16 dans le film. Mon DVD a chié.
Ah! Fait que tu veux ce qu'on dit DVD
la suite, 9 a chié à ce moment-là. J'étais plus capable d'écouter le film. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est un release à l'image du film. De
c'est
qualité
cause... discutable. Ouais. Peut-être qu'il chie parce que tu l'as cogné sur le mur pour tuer une araignée.
Fait que Père Noël et Bianca sont à la recherche de Howie et Samuel dans le monde des humains. Pendant ce temps-là, Katia, qui est frustrée, va essayer de prendre son dernier souffle et le donner à Samuel, qu'elle préfère à Bianca. Et là, elle va casser les derniers souffles de Bianca, Samuel et Howie d'une frappe de même, là, en se parlant seul puis en cassant ça comme une irresponsable. Et ça, ce que ça fait quand tu casses le dernier souffle des lutins, c'est que ils vont potentiellement mourir. Fait que là, on les voit agoniser un peu en se sauvant dans le monde des humains. Puis pendant ce temps-là, ils vont se sauver dans le village, puis tout le village va les suivre. Puis ça, clairement, là, c'est genre les mêmes comédiens que dans La Malédiction d'Aurore Gagnon. Là. C'est du monde pris au hasard dans le village. c'est limite s'ils n'ont pas des fourches là, pour les suivre.
Ouais, parce qu'il y a un gars qui passe proche des frappés de Père Noël puis Bianca. Là.
Ouais.
Il y a aucun, dans la petite route de village qui n'a aucun trafic. Puis c'est juste gratuit, il roule super vite. Là, puis Panel est en tabarnak. Le chauffeur du dimanche! Puis...
Oui, effectivement. C'est ça pas longtemps rien. Après ça que la police débarque. La police est jouée par Michel Daigle, je pense, qui jouait Nounou dans la première.
Dans l'ancien compte.
Dans l'ancien compte, ouais.
Nounou!
Moi, j'ai noté que Samuel, quand il fait peur aux policiers, il y a un de ses sourcils qui passe proche de partir.
Oui, c'est ça, qui décolle.
Ah, c'est là que ça se passe, que je n'avais pas remarqué.
En fait, il y a peut-être un petit message aussi, tu sais, le bully qui devient policier, c'est peut-être un message « fuck the police ».
Ah, ouais.
Penses-tu?
Cab.
Et Cab, asti. Ben ouais.
Je sais pas, Jean-Claude Lard, dans ses 10 premières années, qui est possiblement sa meilleure passe de cinéma, c'est ce que tu semblais dire, Simon?
Ouais.
Je sens qu'il y avait un propos plus engagé dans ses films. Y avait-tu un peu de ça, un peu de fuck the police?
C'était plus fuck the politician, mais sûrement que ça vient un peu avec, tu sais. Il a quand même fait Jasmine aussi, qui nous montrait la police sur un drôle d'angle.
C'est loin dans ma tête, peut-être que c'est pas ça pour vrai, mais il y avait comme un couple de policiers méchants un peu. Là.
J.C. Lauzon.
Oui, c'est ça.
Et blonde, une autre fille.
Il parlait en faisant l'amour, mais il complotait un peu. Ouais, là, lui, on va le crisser dehors. En deux, trois coups de bassin, il parlait, puis il parlait de leurs problèmes. C'était bizarre. Pourquoi il faut que tu fasses l'amour, là? Pourquoi c'est. On dit, il y a un quota de cul.
Non, arrête de zigonner, puis rentre.
Je suis dedans.
Ah, oh, il va être malade, cet épisode-là, les gars. Là.
Simon, je te dis urgence, la scène de sexe. la première scène de sexe avec Marina Orsini et Serge Postigo. Là. Ça dit-tu quelque chose?
Ben, aïe, je me souviens pas de cette scène-là. Je me souviens plus de David Laya qui fourre que Marina Orsini, honnêtement.
Martin Larocque qui se crosse, t'en souviens-tu de ça? Qui fait exploser le bombe.
Oui, ça oui, je m'en souviens très bien.
Oui, qui sette une bombe dans l'hôpital, qui sort, se fait frapper, retourne dans l'hôpital en civière.
Juste en parler, ça me fait rire.
Ah, c'est tellement bon.
Ou juste le ton de Joël, c'est bon la roque qui se crosse.
Il se crosse, mais une bombe. Tu sais, t'as pas l'épisode d'après.
J'ai vu dans un... je sors pas mal du sujet, mais...
Vas-y, Simon.
J'ai vu aussi Martin Larocque se faire sucer live sur un stage pendant un spécial télé sur les MTS par Jeannette Bertrand.
Quoi?
Ça, c'est quelque chose. C'est comme ça a passé à Télé-Québec, puis c'était plein de petits sketchs sur différentes situations. Et t'en avais une que c'était Martin Larocque. Il y a une scène de lui qui jouit pendant qu'elle suce, mais il jouit, tu sais, vraiment trop cartoon. Là. Oh, oh! Puis c'est... Oh, c'est magnifique, là!
Le Père Noël veut sauver en quatre roues, mais heureusement, Cathy va sauver la donne. C'est comme sa rédemption. Elle va débarquer avec le traîneau puis les reines de l'accueil Bonneau. La police débarque, puis le traîneau va passer par-dessus, comme dans E.T.
Exact. J'ai noté ça, c'est scène E.T. C'est tellement même affaire. Là.
Exact. Puis on revient au village. Les trois sont couchés sur les bars d'événements corporatifs, comme je disais plus tôt. puis le Père Noël va complètement briser le lore en disant « Oh non, elle va pas mourir, elle est prête à devenir une fée. » Bianca devient une fée, le Père Noël va dire « Mes amis, nous avons une petite mission à terminer. » Fait qu'ils vont retourner dans le monde des humains pour euthanasier Evelyne.
OK.
Un autre mort.
Mais je veux juste dire, OK, je vais faire un petit Joël. Quand elle se transforme en fée, il y a les deux personnages, il y a Samuel puis la fille qui regarde. Waouh, sont vraiment comme ils regardent un désert, ils regardent à rien parce que c'est du CGI. Oui. Puis il y a une petite fille figurante en arrière qui s'entorche, là, elle regarde dans le vide. Là. Elle regarde fuck all la fille. Il y a une fille qui se transforme, elle la regarde même pas. Là. Puis c'est sûr que tu mettras ça à l'écran. C'est drôle.
Oh, avec plaisir. Parfait. Fait qu'ils vont aller euthanasier Evelyne à l'hôpital. Elle redevient jeune. What the fuck? Parce que si on comprend la convention de Station Nord, les lutins, les gens qui sont comme sauvés, transportés au royaume du Père Noël, vont conserver l'apparence qu'ils ont au moment où ils vont mourir. Elle revient 50 ans en arrière.
Puis elle redevient jeune et jaune pisse. Aussi.
Oui,
c'est vrai. Oui, puis c'est bizarre, puis elle se réveille, puis elle dit qu'elle sait déjà que ça va vivre avec les lutins. Elle est déjà au courant de ça.
Puis elle sort dans le corridor de l'hôpital, il y a du monde qui applaudit. Et ça, Simon, là, je compte sur un gars qui l'a vu quatre fois pour m'expliquer ce qui se passe, là, mais what the fuck? C'est des gens qui sont morts dans l'hôpital, qui sont encore là, qui applaudissent?
Je le sais pas. Je peux pas te
mais
dire.
Tu vois de quoi je parle. Tu vois de quel
point
je parle.
Ouais.
En le voyant, j'ai fait « Ah là, je comprends plus. Là, c'est rendu plus compliqué que Tenet, cette affaire-là.
» D'après moi, c'est inspiré de la fin de Clockwork Orange. Là, qu'il faut la fille, puis il y a du monde qui applaudit à l'entour. Puis Clockwork Orange aussi, parce que dans Clockwork Orange, on se souvient, il y a les bullies, en fait, les criminels qui deviennent policiers.
Fuck the police.
Il retourne au monde magique, je comprends plus rien. Evelyne, Samuel, acceptez-vous de devenir les émissaires du monde magique, de réveiller les cœurs endormis? Ça, c'est la mission que le Père Noël, qui jouait dans les annonces de Belle, donne à Evelyne et à Samuel.
Il y a quelque chose que je comprends pas avec Evelyne, par exemple.
Oui.
Tu sais, elle meurt.
Oui.
Et là, il y a sa petite fille qui existe, mais qu'est-ce qui arrive avec elle? As-tu des parents?
Ben c'est ça, elle traînait tout le temps chez sa grand-mère. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec elle? Bonne question, c'est vrai. Mais surtout, tu sais, je serais curieux d'avoir un genre de spin-off sur le mari d'Evelyn dans ces 50 années-là, parce qu'elle n'a jamais débossé de Samuel.
C'est vrai.
Ouais, son crush de deux.
C'est avoir des enfants avec Evelyn, puis savoir qu'Evelyn, elle pense juste à son amour d'adolescence. Je.
Son amour de 24 heures, là, à peu près. Là.
Ouais. En plus.
Ouais. Puis la fille, elle chante. What the fuck?
Ah, la crise.
Oui, elle fait des... Ho, ho! Ho, 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 ho.
c'est long, là. C'est à la fin du film, mais c'est oui, bizarre.
Ça finit là-dessus.
Le Père Noël, il est comme émerveillé. Il regarde autour de lui pendant que la fée, elle chante, comme si la fée, elle se promenait partout, mais on la voit pas. La fée est tout le temps fixe. C'est comme s'il était supposé avoir un effet spécial, là, puis ils n'ont pas été capables de le faire.
Je sais que...
Il y a une main, puis dans le vide, c'est vraiment awkward. Il regarde autour de lui comme si la fille se promenait partout, un peu comme dans Capitaine Crochet, mettons, mais sauf qu'il n'y avait pas les moyens. Ouais. La fille est juste comme elle est pognée là. Puis quand on la voit de loin, la fille, elle a la face immobile. Elle est en train de chanter, puis elle est juste là. Elle est comme ventriloque. Puis une belle crise de fin pour un film de merde.
Le film finit avec la phrase « Et si c'était vrai? »
Oui.
Chris, non. Je veux pas que ça soit vrai.
C'est trop dépressif.
Tellement.
Mais le film se finit là-dessus. Il y a quand même une couple d'affaires, une couple de faits saillants que j'ai pas abordé. Je suis sûr que vous autres aussi, vous avez trouvé des trucs dont on n'a pas parlé. La VHS est en vente pour la modique somme de 69,95 sur Amazon.
Ben oui,
avis aux gens qui ont beaucoup trop d'argent à calisser par les fenêtres. Là. Simon, si jamais tu veux vendre ta VHS... là.
Je suis assis sur une mine d'or.
T'es assis sur une mine d'or. J'ai trouvé aussi que le film devait être réalisé par Roger Quentin, qui a réalisé d'autres films jeunesse, Mathusalem 1 et 2, La forteresse suspendue aussi, mais il a dû se retirer à cause d'un conflit d'horaire à ce moment-là. C'est Jean-Claude Laure qui a pris le relais là-dessus.
Qu'est-ce qu'il avait mieux à faire?
Ben, je sais pas, c'est deux réalisateurs qui étaient actifs à ce moment-là, fait que j'aurais envie de te répondre autre chose.
bon point.
On passe à la note, les gars. Je le rappelle, nos notes sont de 10 à moins 10. 10 étant un chef-d'œuvre, moins 10 étant un so bad it's good, tellement risible qu'on a envie de le réécouter et d'en rire jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vais commencer par notre invité. Tiens, Simon, ça serait quoi ta note sur 10 à moins 10?
Je te dirais moins 4. C'est pas extraordinaire, c'est pas super drôle. C'est juste, je pense que c'est comme l'ensemble qui est intéressant dans le sens que tout le lore qui est inventé pour le film, il n'y a aucun bon sens. Même si je l'ai écouté plusieurs fois, je le suggère pas à grand monde. Je suis un peu sadomasochiste, ces films de Noël. mais tu l'écoutes par curiosité peut-être, mais après tu passes à d'autres choses. C'est vraiment pas... Je le suggère pas tant que ça.
Parfait. Jean-Gab?
J'aborde pas mal dans le sens de Simon. Moi, je vais donner moins 3. Je vais descendre plus proche du 0. Ben, ceci étant dit, c'est le genre de film que ma blonde se serait tapé, mettons, dans sa semaine de
Netflix?
Vacances. Sur Netflix. Okay. Mais d'ailleurs, quand j'ai dit qu'on faisait Station Nord, elle dit, mais ça, c'est pas si pire que ça comme film. T'sais. Elle m'a vraiment dit ça. C'est clairement pas un grand film. Je pense qu'il y a eu pas mal d'essais, mettons, en termes des décors. Je l'ai dit tantôt, les décors, moi, je les ai trouvés, somme toute, corrects.
Jean-Gab, excuse-moi, je te coupe. Il y a un moment dans le film où j'ai remarqué, je pense qu'il y avait deux lignes de masking tape vert au niveau d'un joint dans le décor.
Pour vrai?
Puis on les voit big time. C'est une scène où Cathy capote, là, vient de péter des fioles. Puis je vais mettre l'insert, là, mais je vois vraiment deux lignes vertes puis un joint.
OK, je vais donner moins 2 de base.
Une évidence, là.
Je vais donner moins 2. Je vais baisser d'une coche parce que moi, c'était mon point fort, les décors. Fait que...
moins 2? Moi, je pense que j'ai plus aimé que vous autres, selon vos commentaires. Moi, j'ai quand même pas mal ri. C'était un peu long. C'est pas loin de 2 heures, puis ça aurait pu être plus court que ça. Je pense que je la réécouterais peut-être, ce film-là.
Quel con.
Je pense que je vais lui donner la note de passage, moins 6.
Et t'as,
ah ouais, oh ouais.
Ok.
Parce que je m'attendais, parce que je pense en tout, tu nous avais un peu préparé. Ouais, c'est un peu risé, mais ben, pas tant que ça.
C'est
un
très
peu
long pour le risé que c'est. Ouais.
Je m'attendais à m'emmerder solide, mais c'est, je pense que c'est celui que j'ai le plus ri, qui m'a fait le plus rire dans les épisodes, dans les films de Noël qu'on a écouté cette année dans le cabanon.
Ouais, ok, ok.
Bon, j'ai plus. Tu sais, Elves, c'est peut-être un meilleur sur Ballet's Good.
Ouais.
Je sais pas, mais c'est pas aussi risible, je trouve. Puis Santa Wade Muscles, ben on n'en parle juste pas. Là.
Un autre film qui m'a donné envie de me pendre, mais pour la même raison.
Deux épisodes de Noël chez Isidore, d'ailleurs, Santa Wade Muscles puis Elves. Elves, qui est au moment d'enregistrer votre plus récent, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Mais bref, ouais, je pense que je vais y aller avec moi. C'est pas aussi drôle que Papa est devenu lutin, mais je trouve que il y a de quoi de Chitu qui voulait faire de quoi de fantaisiste, mais qui n'avait pas les moyens. Ça paraît que le budget est limité et que les décors sont c'est en carton, on dirait. C'est ça.
C'est un excuse tout le temps. Ça gosse tout le temps une excuse de « Ouais, on n'a pas les moyens. » Chris, l'imagination, là, ça coûte gratis. Tu sais, utilise-le comme du monde. D'après moi, tu es capable de faire de quoi.
Depuis que Blumhouse est dans Loop, la défaite du « On n'a pas les moyens », ça ne marche plus avec moi. Je suis comme toutes les Blumhouse coûtent entre 5 et 7 millions, qui est le budget de pas mal de nos films québécois.
So the formula in broad strokes is we only make low-budget movies. We get paid nothing. The directors get paid as little as we're allowed, which is scale. The actors get paid as little as they are allowed, which is scale. And the pitch to the filmmaker coming in, my greatest successes, or our greatest successes, have been with filmmakers who've kind of had a hit and then kind of gone off a little bit. So James Wan did Saw, and he did two movies for Universal you've never heard of, and he came into my office, and he is pissed.
They're in movie jail.
They're in movie jail. They're pissed at the system. And one of the biggest reasons we get mad at the system is, we go to work for a studio, the studio tells us what to do, the movie bombs, we get blamed. So we, being the filmmakers, get blamed. So that is a very powerful tool that our company uses. And we say to James, or whoever it may be, can't promise you a hit, but I'm going to give you Final Cut, and I promise the movie will be your own. So you're going to live or die on your own work.
Je pense aussi qu'on les films pour enfants, souvent j'ai l'impression qu'on fait comme, c'est pas grave.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est les films pour enfants qui prennent le temps de faire de quoi de bon, qui ressortent du lot, tu sais.
Ouais.
Ça, c'est comme, c'est correct, on va montrer de la magie, puis ça va être bien beau, là.
L'excuse Dominique Adams, c'est un film pour enfants, donc c'est pas grave si c'est poche.
C'est ça.
Les enfants, c'est des cas.
Tout a été dit pour ce qui est de la critique. Moi, je vais me contenter de juste dire ma note, puis j'abonde dans le même sens que Jean-Gab. Moins 3 sur 10. Moins 3. Moins 3. Puis j'étais parti avec l'idée que c'était plus un moins 2, mais on dirait qu'en parlant avec vous autres, j'abonde plus vers le moins 3. Le réécouter, je pense qu'il va se passer à peu près le même nombre d'années qui s'est passé entre la fois que je l'ai vu au cinéma et la fois que je l'ai écouté hier, mettons. Je suis pas pressé de réécouter ça. J'ai d'autres nanars de Noël, je pense.
Je pensais que tu allais dire comme dans le film 50 ans, tu vas attendre 50 ans. Puis...
Oui, exact.
Là, ce qui gosse, c'est que sûrement que je vais faire un épisode de Noël chez Isidore là-dessus un moment donné. Ça veut dire qu'il va falloir que je le réécoute. Je suis tanné.
On sera là si tu as besoin d'un invité. Ça nous donnera une bonne raison de le réécouter. Joël a trippé bien raide, visiblement.
Bien raide. Si je le réécoute, je vais être déçu, finalement. Là.
Je te laisserai le DVD, Joël. Moi, écoute, à ce que l'épisode est fait, j'en ai plus rien à foutre. Là.
Puis il saute de toute façon à 1h05.
C'est déjà tout pour nous. Merci Simon d'être passé.
Merci de l'invitation.
J'espère que c'est pas la dernière fois, Colin. On peut te suivre via Les Mystérieux Étonnants, via Noël chez Isidore. As-tu quelque chose à plugger? C'est le temps.
Je peux plugger aussi mon Instagram où je poste plein de petites vidéos niaiseux de séries québécoises.
Oui.
C'est chaîne vidéo.
Des faces filmées en plongée. Ça me fait bien rire, moi, ça. C'est
la vidéo que tu avais mise, aveugle. Je sais pas si c'était censé.
C'est dans Jamais 2 sans toi.
Jesus.
suis aveugle. Je suis aveugle.
Suivez-nous sur Facebook, YouTube, en audio, partout. On est aussi sur Patreon. Même chose pour les mystérieux étonnants. Si vous avez envie de les encourager, je vais reprendre la pick-up line de Ben, puis je vais dire que pour le prix d'un café par mois, vous pouvez encourager les mystérieux étonnants.
On va avoir un podcast exclusif sur Terre humaine.
Exact, c'est vrai. Beaucoup de contenu exclusif. Vous avez été super efficace pendant le mois d'octobre via Discord, puis avec les bifurcations aussi, à parler de toutes sortes de films, les Scream. Vraiment, les mystérieux étonnants. Si vous nous écoutez, j'imagine que vous avez déjà une petite idée de c'est quoi, c'est qui les mystérieux étonnants. Ils étaient là bien avant nous autres.
Ouais.
Mais si vous les connaissez pas encore, allez écouter ça. C'est comme un rendez-vous hebdomadaire parfait pour vous tenir au courant sur la culture pop, culture geek. Solide. Moi, ça fait un bout que je les écoute, puis j'adore ça. Finalement, ben nous aussi, on est sur Patreon. Je vais dire, moi, pour le prix d'un junior au poulet, vous avez accès à notre contenu exclusif qui est nous qui déballons nos caisses de cassettes. Pour l'instant, c'est les caisses de cassettes achetées au Vidéo Centre-Ville à Québec. Là, on a vidé la place, puis on a des boîtes de cassettes à n'en plus finir, là, à n'en faire chialer la blonde à Jean Gab.
Ah, ça a l'air pour elle.
Elle est tannée, là.
Ah, que ça prend de la place.
Bon, c'est vrai.
L'affaire, le gros problème, c'est à chaque fois que je vois du monde qui vend des lots de VHS, je suis comme, ouais, je pense que ça rentre. Je pense qu'on peut ajouter.